Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la sainte sourate Qari'a. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Grâce au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mesdames, messieurs, chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 22 avril 2024. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information, suivi d'un commentaire politique. L'attaque sans précédent de l'Iran contre Israël a pris de court les États-Unis. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran considère la sécurité du Pakistan comme la sienne, souligne le président iranien. Le Hezbollah libanais abat un drone israélien de type Hermès 450. Et au Niger, les manifestants réclament le retrait immédiat des troupes américaines. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi est arrivé ce lundi 22 avril à Islamabad, la capitale pakistanaise, pour une visite officielle clé visant à promouvoir la sécurité et les relations commerciales. À la tête d'une délégation politico-économique de haut rang, Raisi est arrivé à Islamabad pour une visite qui le conduira également au Sri Lanka. Le développement des relations économiques et commerciales avec le Pakistan et le Sri Lanka faisait partie des objectifs de son voyage. Il a été accueilli par le ministre pakistanais du Logement et des Travaux publics, Mian Riaz Hussain Pirzada, et par un certain nombre de responsables pakistanais. Avant de quitter Téhéran pour Islamabad lundi matin, le président iranien a déclaré que la promotion de la sécurité le long de la frontière commune avec le Pakistan profiterait aux deux nations. Téhéran et Islamabad ont toujours attaché de l'importance aux liens politiques et économiques, ainsi qu'à la coopération régionale et extra-régionale, a déclaré le chef de l'État iranien. Raisi a en outre souligné que Téhéran et Islamabad partagent la même position en matière de droits de l'homme, de défense du peuple palestinien opprimé et de lutte contre le terrorisme. Il a exprimé la volonté de l'Iran de renforcer ses relations avec le Pakistan et a noté que divers sujets, notamment économiques et commerciaux, énergétiques et frontaliers, sont à l'ordre du jour de ses entretiens avec les autorités pakistanaises. Le président iranien a précisé que les deux pays voisins visent à augmenter la valeur de leurs échanges commerciaux et économiques à 10 milliards de dollars, compte tenu de leur grande capacité. Il a également déclaré que l'expansion des liens économiques et commerciaux avec le Sri Lanka faisait partie des objectifs de son voyage à Colombo. En allusion à la croissance considérable de la coopération entre les deux pays dans les secteurs techniques et de l'ingénierie, Raisi a exprimé l'espoir que sa visite marquera un tournant dans la promotion des relations entre l'Iran et le Sri Lanka. Le mouvement de résistance libanais Hezbollah a mis en ligne une vidéo dans laquelle il annonce avoir abattu un drone israélien sophistiqué au-dessus du sud du Liban une fois qu'il a violé l'espace aérien du pays arabe. La résistance islamique confirme que le drone ennemi abattu par ses combattants dans l'espace aérien de la région d'Al-Aïchia au sud du Liban est un Hermès 450, a indiqué le mouvement dans un communiqué dimanche soir, 21 avril. Le drone israélien Hermès 450 a été abattu alors qu'il attaquait le peuple libanais. La destruction du drone fait partie des opérations menées par les mouvements de résistance en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza. Quelques heures plus tard, l'armée du régime israélien a reconnu dans un communiqué qu'un de ces drones opérant dans le ciel libanais avait été touché par un missile solaire. Baptisé Zik en hébreu, le Hermès 450 a une envergure de 10,6 mètres et pèse 550 kg. Il a une autonomie de plus de 20 heures et sa mission principale est l'espionnage, la surveillance et le relais de communication. Il peut également emporter jusqu'à 4 missiles pour des opérations offensives également. Ce nouvel exploit est intervenu après que les combattants du Hezbollah ont réussi à abattre début avril un drone israélien Hermès 900 avancé au-dessus du territoire libanais. Deux bases militaires importantes des forces d'occupation américaines ont été ciblées par des missiles et des drones lundi 22 avril à l'est de la Syrie. le correspondant de la chaîne d'information libanaise Al-Mayadeen à Alep a rapporté lundi à l'Aube que 4 missiles avaient frappé la base militaire américaine dans le champ pétrolier d'Al-Omar, tandis que la base américaine de Kharab al-Jir a été visée par 3 missiles et un drone. Les deux bases se trouvent dans l'est de la Syrie. Al-Mayadeen a fait état de victimes directes au sein de la base de Kharab al-Jir. Les attaques contre ces deux bases américaines, les plus importantes dans l'est de la Syrie, ont eu lieu à moins d'une heure d'intervalle. Tout d'abord, des explosions se sont fait entendre depuis la base américaine de Green Village, près du champ pétrolier d'Al-Omar, dans la campagne de Deir ez-Zor. Par la suite, 3 explosions ont été entendues à proximité de la base américaine de l'aéroport de Kharab al-Jir, au nord de Hasakeh. La veille dimanche, une autre base militaire américaine a été frappée. Reuters a rapporté, citant deux sources irakiennes, qu'au moins 5 roquettes avaient été lancées depuis Zoumar en Irak, vers le nord-est de la Syrie. La résistance islamique en Irak, qui regroupe des combattants antiterroristes, a revendiqué la plupart des frappes de représailles contre les bases militaires américaines en Irak et en Syrie voisine. La résistance irakienne insiste que ces frappes sur les sites militaires américains et israéliens se poursuivraient aussi longtemps que se poursuivrait la guerre génocidaire du régime de Tel Aviv contre la bande de Gaza assiégée. La guerre israélienne contre Gaza a fait jusqu'à présent plus de 34 000 morts, pour la plupart des femmes et des enfants, et près de 67 000 blessés. Plus d'1,7 million de personnes sont déplacées à l'intérieur de l'enclave palestinienne de Gaza. Des manifestations contre le racisme et l'islamophobie ont eu lieu à Paris. La marche précédemment annulée par décret de la préfecture de police a eu finalement ce dimanche 21 avril. Suite à une décision du tribunal administratif entre Barbès et la place de la République, comme l'indique un rapport publié sur le journal français Le Figaro. Organisée à l'appel de 51 organisations, parmi lesquelles la France insoumise, la marche a commencé à Barbès pour rejoindre la place de la République. Jeudi 18 avril, la préfecture de police s'est vue contrainte d'interdire cette marche en raison de graves menaces pesant sur la stabilité de l'ordre public. Vendredi dernier, le tribunal administratif a décidé de lever l'interdiction en raison d'un conflit sérieux et manifestement illégal avec la liberté de manifester. Depuis le déclenchement de l'offensive brutale du régime sioniste contre la bande de Gaza, une vague de racisme et d'islamophobie a submergé la France. Durant cette période, plusieurs villes, y compris Paris, ont été le théâtre de manifestations récurrentes des pro-palestiniens. Au Niger, les manifestants réclament le retrait immédiat des troupes américaines à Agadez, ville aux portes du désert où se trouve la base aérienne 201 disposition des États-Unis. Des centaines de personnes ont manifesté pour demander le départ des soldats américains, 2 jours après que Washington a accepté cette demande formelle des autorités nigériennes. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté dimanche 21 avril à Agadez, dans le nord du Niger, pour exiger le départ des soldats américains qui y disposent d'une base, une demande d'ores et déjà acceptée par les États-Unis. Les manifestants se sont rassemblés à l'appel d'un collectif de 24 associations de la société civile soutenant le régime militaire arrivé au pouvoir le 26 juillet 2023. Des drapeaux burkinabés, maliens, nigériens et russes étaient visibles lors de la manifestation. Sur une grande banderole déployée par les manifestants, on pouvait lire « Ici, c'est Agadez, pas Washington, armée US, partez ». Notre message est clair, soldats américains, pliez bagages et rentrez chez vous, a déclaré à l'AFP Issouf Emout, dirigeant à Agadez du mouvement M62, qui avait organisé des manifestations pour exiger le départ des soldats français. La manifestation s'est déroulée 2 jours après que Washington a accepté de retirer le millier de soldats américains basés au Niger. Comme l'ont affirmé vendredi plusieurs responsables américains sous couvert de l'anonymat à l'AFP. Le premier ministre du Niger, Ali Lamine Zein, et le secrétaire d'État adjoint américain, Kurt Campbell, ont convenu vendredi que leurs deux pays commenceraient à planifier le retrait des troupes américaines, a déclaré le département d'État américain à l'Associated Press. Une délégation américaine est attendue au Niger dans les prochains jours pour s'accorder sur les détails du retrait de ces soldats, qui disposent d'une importante base de drones tout près d'Agadez. Le calendrier du retrait des forces militaires du Niger n'est pas encore élaboré et des discussions sur les prochaines étapes vont avoir lieu dans les jours à venir. En mars, Niamey a dénoncé l'accord de coopération militaire signé en 2012 avec les États-Unis, estimant que celui-ci avait été imposé unilatéralement par Washington et que la présence américaine était désormais illégale. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Le plan d'aide militaire américaine contre la Russie, la Chine et Gaza. La Chambre des représentants américaine a alloué plus de 85 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine et le régime sioniste dans leur bataille militaire et accordé 8,12 milliards de dollars à Taïwan. Ce qui, en termes simples, constitue une aide financière et militaire importante contre la Russie, la population de Gaza et la Chine. Les démocrates et les républicains de la Chambre des représentants américaine se sont unis samedi dernier, après 6 mois de désaccords et de retards sur l'aide économique et militaire à l'Ukraine. Ils ont accepté, en quelques minutes, une aide militaire de 61 milliards de dollars à l'Ukraine. Ce projet de loi a été approuvé par 311 voix pour et 112 voix contre. Tous les démocrates y ont voté pour. En plus de l'aide militaire et civile prévue par ce projet de loi, les parlementaires américains ont permis que les avoirs russes saisis aux États-Unis soient confisqués et remis à l'Ukraine. Comme prévu, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, s'est félicité de ce gros gâteau d'armes et tout en remerciant la Chambre des représentants américaine, a déclaré que cette aide financière et militaire s'inscrit dans le cadre de la politique de prévention de la guerre. Une interprétation à laquelle la Russie croit à l'opposé. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré en réponse à l'action du Congrès américain « Il est clair que les États-Unis souhaitent que l'Ukraine se batte jusqu'au dernier survivant du pays. La noyade de Washington dans les profondeurs d'une guerre combinée contre la Russie constituerait un scandale énorme et humiliant pour les États-Unis, comme ce qui s'est passé au Vietnam et en Afghanistan. » Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié de vol le transfert des avoirs russes gelés vers l'Ukraine et a averti. Le régime israélien n'a pas été épargné de l'aide militaire et financière du Congrès américain. À moins après que les médias anglophones et l'appareil de propagande américain ont confirmé que Joe Biden et Benjamin Netanyahu étaient en conflit en ce qui concerne la gestion et la poursuite de la guerre à Gaza, la Chambre des représentants a mis fin à ces insinuations avec une enveloppe de 26 milliards de dollars d'aide militaire au régime d'Israël. Le projet de loi d'aide au régime israélien a été approuvé avec 366 voix pour. L'aide comprend 4 milliards de dollars pour la défense antimissile et le renforcement du dôme de fer, qui a mis fin à la légende de son invincibilité lors de la frappe de missiles et de drones iraniens sur les territoires occupés. L'ironie de l'histoire était l'aide de 9 milliards de dollars américains pour les besoins humanitaires de Gaza et des populations vulnérables du monde, qui, en raison de l'interdiction précédente des États-Unis sur l'aide financière à l'UNRWA, ne sera pas réellement attribuée à la population de Gaza. La session du Congrès ce samedi a donné lieu à une autre résolution controversée. Outre l'aide de 8,12 milliards de dollars de Washington pour soutenir Taïwan dans la région Indo-Pacifique, les représentants américains ont voté pour un projet de loi qui pourrait conduire à l'interdiction du réseau social TikTok aux États-Unis, à moins que la plateforme ne se sépare de son propriétaire chinois. Cette application de partage de courtes vidéos compte 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. Et désormais, Biden et TikTok sont à la croisée des chemins.
À toutes et à tous, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat. L'Iran est prêt à réviser la politique de sécurité nucléaire de son pays. Alors, comparaison de l'approche militaire de l'Iran et Israël du point de vue de l'éthique internationale, on va s'intéresser à ces questions avec nos deux experts qui nous rejoignent tout de suite après un petit reportage. Restez avec nous. Merci.
L'Iran a répondu aux menaces d'Israël de bombarder ses sites nucléaires. Un haut commandant du corps de gardiens de la révolution islamique a déclaré que la République islamique était pleinement préparée à faire face à toute attaque israélienne. Ahmad Haqtalab, le commandant de l'unité du CGRI chargé de sauvegarder les sites nucléaires iraniens, a déclaré que l'Iran était prêt à répondre de la même manière si le régime sioniste entreprenait une action hostile contre ces sites nucléaires. Le général du CGRI a ajouté que l'Iran avait identifié les sites nucléaires israéliens et que de puissants missiles iraniens étaient prêts à détruire les cibles spécifiées à tout moment. Haqtalab a également déclaré qu'il était possible pour l'Iran de réviser et de modifier sa politique de sécurité nucléaire déclarée en cas d'agression israélienne contre ses installations. Il a souligné que la réponse de l'Iran à une éventuelle nouvelle attaque serait bien plus forte que la précédente.
Voilà, retour au plateau face à ces menaces croissantes, de plus en plus audacieuses, de plus en plus enhardies et fortes de soutien complice de l'Occident. Israël multiplie les menaces. Cette fois-ci, il a brandi sa menace nucléaire face à l'Iran. On va s'intéresser à ce sujet. L'Iran, en réaction, s'est dit prêt à réviser sa politique de sécurité nucléaire, ce qui a fait couler beaucoup d'encre depuis hier dans les médias, beaucoup de réactions. On va s'intéresser à cette question et le développer un petit peu avec nos deux experts qui nous rejoignent. Il s'agit de M. Emadeddin Hamrouni qui nous rejoint depuis Paris. Il est géopoliticien universitaire. Bonjour.
Bonjour à vous et à votre invité, à nous, chers téléspectateurs.
Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Hamrouni. J'ai l'immense plaisir de recevoir également Maître Arnaud Develet qui nous rejoigne. Alors, il est avocat, juriste et spécialiste des questions stratégiques. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Develet.
Ben, je vous en prie, merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs, à l'équipe et bonjour à M. Hamrouni.
Alors, Maître Hamrouni, si vous me permettez, Maître Doblé, alors on commence par M. Hamrouni. Une possible action du régime israélien contre les sites nucléaires iraniens, ces menaces ne sont pas une chose d'ailleurs nouvelle. Elles datent des années précédentes où le faux régime sioniste a perpétré des sabotages, des actes terroristes visant les savants nucléaires iraniens, visant même l'industrie nucléaire de l'Iran. Alors, comment réagissez-vous à cette déclaration d'hier du commandant iranien qui a dit prêt à l'Iran à réviser sa politique de sécurité nucléaire?
Tout à fait, la déclaration du commandant de gardien de la révolution islamique responsable de la sécurité des installations nucléaires en Iran a bien précisé que dans le cas où l'entité sioniste ou ses alliés américains ou occidentaux pensent ou réagissent en bombardant des sites nucléaires iraniens, eh ben la réponse, la première réponse, ça sera d'abord de réexaminer donc toute la position iranienne depuis 25 ans à peu près, c'est-à-dire de augmenter l'enrichissement, si vous voulez, de l'uranium vers 60 et pourquoi pas vers 90%, d'une part, et d'autre part, de répondre immédiatement en visant les sites nucléaires israéliens sur le territoire de la Palestine occupée. Donc la déclaration, elle est très sérieuse et elle a été prise sérieusement par les Américains, par les États-Unis, par la France, par l'Angleterre et l'Allemagne, par la Chine et la Russie aussi, parce que c'est un changement radical. Depuis une semaine, depuis la démonstration de force stratégique iranienne le 14 avril dernier, le monde a changé, c'est-à-dire l'équilibre des forces de la dissuasion dans la région a changé. Et on l'a vu ce matin tôt, comment quelques petits drones sont venus vers Espahan, vers Tabriz et peut-être vers Téhéran, on ne sait pas, de la part des mercenaires israéliens sur le territoire iranien. Et donc on a vu que Israël a perdu, si vous voulez, la face vis-à-vis de sa force de dissuasion. Donc la réponse du commandant des gardiens de la révolution, elle est très sérieuse, et les États-Unis, ils font tout pour que les Israéliens ne répliquent pas comme ils ont menacé. Aussi, il faut ajouter la déclaration de M. Abdullahian, le ministre des Affaires étrangères iranien, à New York ce matin tôt, où il a précisé la même chose, c'est-à-dire que l'Iran ne cherche pas la guerre, l'Iran ne cherche pas à changer sa politique sur les relations internationales, même avec les États-Unis, mais dans le cas où on attaque ces sites nucléaires, l'Iran va répondre immédiatement dans toute la région, pas simplement sur les sites nucléaires israéliens.
Merci, M. Amrouni. Mes Doblé, alors, pour nombreux commentateurs et analystes, il faut prendre au sérieux cette déclaration d'hier du commandant iranien. Alors, d'après vous, quelle est l'importance de cette déclaration et pourquoi il faut le prendre au sérieux? Je rappelle que Israël mène actuellement une vraie guerre psychologique contre l'Iran, pour diaboliser l'Iran, pour passer alors l'agresseur, qui est lui-même, comme victime.
Oui, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce sont les déclarations récentes, il y a à peine quelques jours, au plus haut niveau de l'État iranien, portant déjà sur le fait que la doctrine de patience stratégique était une chose maintenant révolue, et que l'Iran, dans ce contexte, bien sûr, se réservait le droit de répondre avec force à toute tentative, bien sûr, d'empiéter sur sa souveraineté. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que malgré les dénégations des Occidentaux et ce qui semblerait être des appels à la restreinte, ces mêmes Occidentaux, comme vous l'avez souligné, accompagnent le narratif israélien, faisant fi de l'attaque sur le consulat iranien à Damas, et laissant entendre que le régime d'occupation serait la victime, entre guillemets. Et donc l'Iran ne s'y trompe pas, que dans ce contexte-là, il est clair que si la situation venait à escalader, on pourrait imaginer que tous les pays de la région dans lesquels les Américains ont des bases seraient également touchés. Ce qui, effectivement, laisse entendre que Netanyahou essaye de jouer la surenchère parce que son objectif pour pouvoir échapper aux poursuites, c'est effectivement d'élargir le front. On a entendu que toutes les brigades avaient été retirées de Gaza à l'exception d'une pour être redirigées vers le front nord. Cela laisse entendre que, à défaut d'ouvrir un front au Liban, l'option serait peut-être effectivement de provoquer l'Iran à nouveau dans une surenchère qui verrait à terme les États-Unis joindre, si je puis dire, au conflit. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut être très prudent, mais en même temps très ferme. Et garder toujours à l'esprit que, eu égard à cette déclaration faite sur le changement de doctrine nucléaire, le fondateur de la République islamique d'Iran avait lui-même mis en place un régime juridique qui interdisait l'utilisation de ce genre d'armes.
Exactement.
Mais que les choses étant ce qu'elles sont, on peut maintenant imaginer que pour rétablir la parité, au sens où maintenant il n'y a plus d'ambiguïté sur le sujet, et ce malgré des années de négociations infructueuses où l'Iran s'est prêté au jeu portant à engager les interlocuteurs occidentaux. On a pu le voir au travers de cet accord sur le nucléaire, pour moi, mort-né. Et dès lors que Trump s'est retiré unilatéralement en 2018 de l'accord, que les Occidentaux n'ont eu de cesse de dénaturer la nature de l'accord pour essayer d'y inclure justement la capacité de l'Iran à pouvoir se défendre, à savoir son programme balistique. Donc tout ça n'a toujours été qu'une farce. Et là, nous arrivons à, si je puis dire, à la conclusion logique que l'Iran a bien fait de rester ferme sur ses positions et de jouer aussi dans le cadre de l'accord sur la capacité qui lui a été octroyée d'augmenter la production d'uranium enrichi, article 26 et 36 de l'accord. Et dans ce contexte-là, les visites du représentant de l'Agence internationale atomique n'ont plus lieu d'être. Et c'est dans ce contexte-là maintenant que nous nous trouvons.
Merci beaucoup. Monsieur Amrouni, est-ce qu'on peut dire que cette action punitive de l'Iran, cette attaque contre Israël, alors a pu changer les équations internationales, les rapports de force en amont au niveau régional, voire international? Alors, est-ce qu'on peut dire que même, c'est pas moi qui le dis, ce sont les experts, que cet avertissement en pratique de l'Iran, c'était même source de stabilité en faveur de la paix et pas du tout une source contre la stabilité de la région et en faveur de la tension. Parce que cet avertissement en acte de l'Iran et la récente déclaration du commandant iranien peut en fait potentiellement dissuader Israël, qui est devenu de plus en plus enhardi et audacieux.
Exactement. Depuis une semaine, donc, on a entendu tous les experts aux États-Unis, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, des vrais experts là, des experts en géopolitique ou des experts militaires surtout, qu'ils étaient très surpris, très étonnés de la puissance iranienne, parce que c'est la première fois dans l'histoire, si vous voulez, moderne, qu'on a vu cette démonstration technologique. C'est-à-dire, c'est la première fois. Deux, les Iraniens, ils ont montré qu'ils avaient la capacité technologique de frapper sur tout le territoire de la Palestine occupée. Ça, c'est une démonstration réelle. C'est pas théorique, c'est réel. Deuxième chose qui est très importante, c'est la capacité de prendre la décision politique, c'est-à-dire de dire « moi, j'ai la capacité aujourd'hui de prendre une décision et d'aller frapper directement l'entité sioniste ». Et comme vous l'avez dit dans votre introduction, l'entité sioniste depuis 20 ans, et surtout Netanyahou, il n'a jamais cessé de dire « je veux et on va frapper l'Iran, on va attaquer l'Iran », et bien l'inverse, c'est-à-dire c'est l'Iran qui a attaqué en réponse, bien sûr, et elle a le droit légitime au niveau du droit international à l'agression sur le consulat général iranien à Damas. Donc, du point de vue militaire, les Iraniens, ils ont montré leur capacité technologique. De point de vue politique, ils ont montré leur indépendance et leur capacité à aller trop loin. Mais en même temps, ils ont montré qu'ils ne veulent pas la guerre, c'est-à-dire qu'ils veulent la stabilité politique. Et je pense que le message est arrivé à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, les Américains, au sein même de la Maison-Blanche, au sein même de l'État profond américain, on est en train de parler, c'est-à-dire on est en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour d'abord protéger la sécurité israélienne et reconnaître donc cette force de dissuasion iranienne et aller discuter, c'est-à-dire aller négocier avec les Iraniens pour la situation globale. Pas simplement ce qui se passe à Gaza, mais ce qui se passe en Syrie, la présence américaine militaire en Syrie, la présence militaire américaine en Irak, ce qui se passe dans la mer Rouge. Donc on est rentré dans une autre phase où l'Iran, elle a montré techniquement, militairement, politiquement, que c'est un acteur important, majeur, pour la stabilité régionale et même au-delà, la stabilité dans le monde.
Merci beaucoup. Maître Doblet, en tant que juriste, alors conformément aux normes et aux protocoles internationaux, également aux règles et réglementations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, toute attaque contre les installations nucléaires sont interdites. Alors comment Israël ose d'en parler face à l'Iran et brandir cette menace nucléaire contre l'Iran?
Ben écoutez, tout simplement parce que Washington, depuis la guerre en Irak, a réussi à subjuguer les agences onusiennes, que ce soit l'agence chargée du contrôle des armes chimiques. On l'a vu avec les faux rapports qui ont été rendant coupable le gouvernement de Bachar al-Assad pour des attaques chimiques, soi-disant contre sa propre population. Et on a pu le voir récemment dans la province de Zaporozhye, dans la Nouvelle-Russie, les régions qu'on appelle la Nouvelle-Russie, où le réacteur nucléaire qui a fait l'objet, pourtant dès 2022, de bombardements par le régime de Kiev, s'est vu se faire octroyer un blanc-seing, puisque à aucun moment dans les rapports de l'agence, il n'est mentionné la responsabilité de la clique de Kiev, si ce n'est que certains projectiles venaient d'une certaine direction, mais sans aller jusqu'au bout du raisonnement. Donc malheureusement, on est en présence d'agences onusiennes qui ont été complètement, mises sous contrôle, et donc il ne faut rien attendre, partant de là, d'une quelconque condamnation au sens stricto sensu juridique, et partant de là, donc le régime israélien peut considérer que il n'y a pas de précédent qui lui permettrait d'avoir des hésitations quant à sa proclivité à agir dans ce sens. Rajoutons que, effectivement, depuis des années maintenant, les Israéliens ne se privent pas pour assassiner des scientifiques iraniens partout où ils le peuvent, pour, selon eux, freiner le programme nucléaire iranien. Gardons à l'esprit que l'Iran s'est toujours conformé au régime de non-prolifération. Il a déclaré l'existence de ses installations nucléaires à but civil, ce qui lui est tout à fait permis sous le traité de non-prolifération, et que partant de là, c'est une fausse accusation, c'est une accusation qui n'a pas de sens en soi, puisque l'Iran s'est toujours plié au régime justement de non-prolifération.
Merci beaucoup. Monsieur Amrouni, alors... Nous assistons à une escalade sans précédent des tensions entre Téhéran et Tel Aviv, et qui est un signal d'alarme d'après les commentateurs et les experts, les analystes des questions politiques et stratégiques. Un signal d'alarme pour les puissances occidentales et les partisans occidentaux d'Israël. Alors, si la guerre à Gaza et ses conflits étendus dans la région vers l'Iran aussi par Israël, voulu par Israël, ne prend pas fin si tôt, alors la communauté internationale devrait se préparer à ce que le Moyen-Orient, voire le monde, s'embrase. Comment réagissez-vous face à cette extension du conflit voulu et alimenté par Israël?
En tout cas, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que l'opinion publique internationale, et surtout américain et européen, montre doigt, donc la responsabilité de l'État israélien et la responsabilité de Netanyahou dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est un changement important. Il faut le marquer. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout le monde, y compris les Américains, reconnaissent que le problème se trouve dans le gouvernement israélien. Et même Ehud Barak, l'ancien Premier ministre et l'ancien général de l'armée israélienne, le dit franchement depuis 3 jours. Il a dit que autour de Netanyahou, il n'y a que des extrémistes sionistes, des gens qui veulent aller à l'affrontement, à l'embrasement de la région. Donc le responsable, le premier responsable de tout ce qui va se passer si on va dans la guerre, c'est-à-dire c'est le gouvernement israélien. Et donc pour cette raison, les États-Unis vont tout faire pour que les Israéliens ne vont pas aller au-delà de ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Par contre, Le fait nouveau, c'est que l'Iran se présente aujourd'hui comme un acteur majeur de stabilité. Et ça, il faut le noter, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le redire, car elle a fait la démonstration réelle, pratique, c'est pas dans la théorie, comme il a dit Maître Velenet tout à l'heure, c'est-à-dire l'Iran à la sortie de la passion stratégique vers donc une démarche de géopolitique importante en disant nous sommes là pour stabiliser la région. Et donc je pense que les États-Unis et l'Europe, et surtout l'Europe, la France, l'Angleterre et l'Allemagne, vont aller vers des négociations directes avec les Iraniens, même si on a vu que les Européens, ils ont déclaré des sanctions, encore des sanctions pour plaire aux Israéliens, donc des sanctions contre le peuple iranien, contre le gouvernement iranien. Et dans la déclaration du commandant aussi, il faut dire que ce n'est pas simplement la menace de frapper les sites nucléaires iraniens qui est importante, c'est aussi ces sanctions. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à arrêter les sanctions et l'embargo économique contre le peuple iranien. Il ne faut pas que ça dure, parce qu'aujourd'hui, l'Iran elle a montré qu'elle est capable donc, d'anéantir ses ennemis. Capable, je veux dire, par là, militairement. Mais en même temps, stratégiquement, les Iraniens, ils ne choisissent pas cette solution. Les Iraniens, ils disent, nous respectons le droit international, nous respectons les organisations des Nations Unies, nous demandons de négocier partout, dans tous les problèmes, dans tous les dossiers. Et donc, ça montre que ceux qui veulent la guerre aujourd'hui, ce sont les Israéliens.
Merci beaucoup. Maître Oblé, alors, je vous laisse réagir et conclure le débat d'aujourd'hui. Nous avons 3 minutes encore devant nous. Je vous prie.
Oui, j'aimerais bien pouvoir partager l'optimisme de M. Amrouni. Mais les faits sont quand même têtus et effectivement, cette annonce de sanctions, et ce n'est pas n'importe quel type de sanctions, puisqu'il a été aussi mis en avant le désir, en tout cas émanant du régime d'occupation, et on peut penser que les Occidentaux accompagneront le mouvement, de déclarer le corps des gardiens de la Révolution comme étant une entité terroriste. Ce qui est absolument sans précédent, puisqu'il s'agit d'un organe officiel de la République islamique d'Iran. Donc là, on est vraiment... Et j'ajouterais à cela que ce serait très simple pour les Occidentaux, à commencer par les Américains, s'ils souhaitaient tirer sur la laisse de leur agent dans la région, hein, le régime d'occupation, ce serait simplement d'interrompre la livraison d'armes. Or, on s'aperçoit que c'est tout à fait le contraire, et que depuis le début du génocide à Gaza, il n'y a pas eu d'interruption, bien au contraire, qu'une aide supplémentaire vient d'ailleurs d'être passée au niveau de la Chambre des représentants il y a 2 jours, et que partant de là, pour l'instant, tous les signes laissent entendre que Netanyahou, malheureusement, a encore de beaux jours devant lui.
Merci beaucoup, Maître Oulé, et merci à vous également, Monsieur Amrouni. Alors, ici prend fin notre débat. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, au revoir, à la prochaine.
Voyage dans l'univers mystique de Mont Lavu. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. La perle du sultan. Un jour, le sultan était dans son boudoir entouré de sa cour. Il sortit d'un coffret une perle précieuse et la mit dans la main de son vizir en lui demandant « Quelle est sa valeur ?»« 100 sacs d'or, » répondit le vizir. « Écrase-la, » ordonna le sultan. « Comment oserais-je ? » dit le vizir. « Cette perle est le fleuron de votre trésor. » Je suis content de ta réponse, dit le sultan et lui fit des cadeaux et lui rendit honneur. Un peu après, alors que d'autres sujets de conversation avaient été épuisés, le sultan donna cette même perle à son chambellan en lui disant « Quelle est sa valeur aux yeux de ceux qu'habitent le désir ?»« Cette perle veut la moitié de votre royaume, » dit le chambellan, « que Dieu la protège de tout péril. »« Écrase-la, » ordonna le sultan. « Oh mon sultan, » répondit le chambellan, « ce serait un grand dommage, voyez cette lumière et cette beauté, l'écraser, ce serait porter atteinte au trésor de mon sultan. » Le sultan fut satisfait de cette réponse et le combla de cadeaux en louant sa sagesse. Puis plusieurs beys ou émirs subirent la même épreuve et par imitation, tous donnèrent la même réponse afin de connaître la faveur du sultan. Finalement, le sultan posa la même question à Ayaz. « Que vaut cette perle ?»« Certainement, elle veut davantage qu'on ne le dit, » répondit Ayaz. « Écrase-la, » ordonna le sultan. Or Ayaz, prévenu en rêve de ceci, avait deux pierres dans sa poche. Il s'en saisit et écrasa la perle sans hésiter. Celui qui met son espoir dans l'union avec le bien-aimé ne craint pas d'être Elishkun. Quand Ayaz eut écrasé la perle, les courtisans dirent « Celui qui a écrasé une perle si lumineuse ne peut être qu'un blasphémateur. » « Quel est le plus précieux ?» demanda Ayaz. « L'ordre du sultan ou la perle ?»« Vous, vous êtes intéressé par la perle et non par le sultan. »« Moi, je ne suis pas attiré par les pierres, comme le sont les infidèles. Seul le sultan me préoccupe. L'âme qui est prisonnière d'une pierre colorée ignore l'ordre du sultan. » À ces mots, les beys, les émirs, le chambellan et le vizir inclinèrent la tête en se lamentant. Le sultan fit signe au bourreau. « Venge-moi de ces misérables, » dit-il, « car ils ont préféré une pierre à mes ordres. » « Au sultan, tu es celui auprès de qui les généreux trouvent la source de leur générosité. Les plus généreux ont honte devant la munificence de tes faveurs. » L'insolence et l'ignorance des blasphémateurs provient de l'abondance inépuisable de ta clémence. Au moment du pillage, le peuple veille pour protéger ses biens, puisque la crainte de perdre ses biens l'empêche de dormir. Comment pourrait-il dormir sans crainte de perdre la vie? L'oubli naît de l'inadvertance et du ramollissement. Laisse-leur la vie, car ils ont vu ton visage et ne supporteront pas d'en être séparés. Même si la mort est amère, elle ne peut l'être autant que la séparation. Il est agréable de mourir avec l'espoir de te rejoindre, mais il est amer de vivre dans les tourments de la séparation. En enfer, les infidèles se disent « Nous ne serions pas aussi tristes si nous avions honoré d'un seul regard. » afin que ceux qui sont avilis par l'insolence puissent être lavés par le frat de ta miséricorde, laisse s'écouler le flot de ton pardon. Le pauvre. Un pauvre plein d'insolence vit un jour passer des esclaves richement vêtus d'habits de soie et de ceintures dorées. Il leva les yeux au ciel et dit « Ô mon maître, ces gens-là sont bien soignés par leur maître. C'est de cette manière que tu devrais t'y prendre avec moi, qui suis ton esclave. » En effet, cet homme était en haillons. Il avait faim et tremblait de froid. Cet état était la raison de son insolence. Il était un intime de Dieu et reconnaissait ses faveurs. Si les courtisans peuvent se permettre d'être insolents avec le sultan, ne te crois pas autorisé à agir de même, car tu n'as pas la même intimité avec le maître. Tu désires une ceinture dorée, mais Dieu t'a donné mieux que cela. Une taille pour recevoir cette ceinture. Tu veux une couronne, mais Dieu ne t'a-t-il pas donné une tête? Or, un jour, il advint que le propriétaire des esclaves fut accusé par le sultan d'une faute grave. Ces esclaves furent emprisonnés et torturés afin qu'ils avouent l'emplacement du trésor de leur maître. On les maltraita ainsi un mois durant. Mais par fidélité envers leur maître, aucun d'eux ne vendit la mèche. Un beau jour, le pauvre dont nous parlions reçut un message dans son rêve qui lui disait « Tu peux aller apprendre auprès de ces esclaves comment se conduit un véritable serviteur. » L'arbre fruitier. Un homme était monté sur un arbre fruitier et en secouait les branches pour faire tomber les fruits. Le propriétaire arriva soudain et l'apostropha. « N'as-tu pas honte devant Dieu ?»«
Qu'a-t-il de honteux ?» répliqua l'homme.
« Si un serviteur de Dieu mange le fruit des faveurs de Dieu dans le jardin de Dieu, en quoi est-ce répréhensible ?» Le propriétaire dit alors à ses serviteurs « Amenez une corde afin qu'il reçoive la réponse qu'il mérite. » Il le fit attacher à un arbre, puis le frappa sur les cuisses et le dos. L'homme se mit à crier « Tu devrais avoir honte devant Dieu de maltraiter un innocent comme moi. » Mais le propriétaire répondit « Si un serviteur de Dieu frappe avec le bâton de Dieu un autre serviteur de Dieu, quel mal y vois-tu ? Le bâton lui appartient. Tes cuisses et ton dos lui appartiennent. Quant à moi, je ne suis qu'un outil dans ses mains. » Alors le voleur, « Je me repens. Tu dis vrai, la volonté existe en moi. » La partie d'échecs. Le sultan aimait beaucoup jouer aux échecs avec son talhak, le bouffon. Mais chaque fois que ce dernier le mettait mat, il entrait dans une violente colère. « Que tu sois damné !» lui criait-il. Il prenait les pièces sur l'échiquier et les lui lançait à la tête. « Tiens, voici le roi !» disait-il. Talhak, avec beaucoup de patience, espérait le secours de Dieu. Un jour, le sultan lui ordonna de faire une partie et Talhak se mit à trembler comme s'il se trouvait nu sur la glace. De nouveau, le sultan perdit. Quand vint le moment fatal, Talhak se réfugia dans un coin de la pièce et se cacha sous six couches d'édredon afin de se protéger du jet des pièces. « Que fais-tu donc ?» lui demanda le sultan. Dessous les édredons, Talhak lui répondit « Que tu sois damné deux fois. Quand tu débordes de colère, nul n'ose dire la vérité. C'est toi qui as perdu la partie. Mais en réalité, c'est moi qui suis mis mat par tes coups et me vois contraint de me protéger sous les édredons pour te dire que tu sois damné. » Taille. Un jour, quelqu'un demanda au prédicateur « Ô toi, la gloire de la prédiction, réponds à cette question. Si un oiseau se pose sur la tour d'un château fort, est-ce que sa tête sera plus haute que sa queue ?» Le prédicateur répondit « Si l'oiseau est tourné vers la ville, sache que sa tête est plus haute que sa queue. Mais s'il est tourné vers les faubourgs, alors c'est le contraire. Si un faucon chasse des souris, alors il est dépassé par une chauve-souris qui est attirée par le sultan. La taille d'Adam n'est pas plus grande que celle d'un tonneau, et pourtant, elle dépasse les cieux. » «
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.